Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour et bienvenue à ce dernier cours sur les cellules gliales et la neuroénergétique. Et aujourd'hui, je vais passer brièvement en revue quelques données cellulaires encore, notamment sur le rôle du lactate dans certaines fonctions autres que celles que nous avons déjà vues et aussi dans d'autres contextes, toujours évidemment au niveau du système nerveux. Et puis, je vais essayer de passer en revue rapidement, le temps étant limité, quelques implications de ces interactions métaboliques neurone-glie dans les pathologies neuropsychiatriques. Et ce qui ouvre, en fait, c'est sur la base de résultats récents, je dirais, de ces 5 dernières années, et qui montre que la glie pourrait jouer un rôle dans la pathogenèse d'un certain nombre de maladies psychiatriques. On se focalise beaucoup sur les neurones, c'est important, c'est eux probablement qui souffrent, mais la dysfonction pourrait être au niveau glial dans certains cas. Donc je vais discuter ce point, ce sera disons le message de cette leçon. Alors, très brièvement, donc, on a vu la dernière fois je reprends juste un point particulier du rôle de la glycolyse, donc de la production de lactate par l'astrocyte en relation à l'activité synaptique. Et vous vous souvenez que, notamment les travaux de Reichel avaient montré que une modification du rapport NADH-NAD, et notamment une augmentation du NADH, pouvait jouer un rôle comme dans le couplage neurovasculaire, donc c'est-à-dire un rôle de l'astrocyte et du métabolisme astrocytaire qui, modifié par l'activité synaptique, se trouverait dans un état métabolique qui favoriserait la vasodilatation par ce signal NADH et ensuite la production de NO. Voilà donc où on en était resté la dernière fois. Alors j'aimerais maintenant très brièvement passer en revue quelques autres aspects dans lesquels les modifications du métabolisme astrocytaire telles qu'on les a beaucoup discutées ici, c'est-à-dire cette stimulation de la glycolyse par le glutamate, enfin je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu vraiment in extenso, comment ce couplage pourrait être impliqué dans une série d'autres fonctions neuronales ou essentiellement neuronales. Alors, le premier premier exemple est un travail que j'ai conduit au laboratoire avec mon collègue Jean-Yves Chaton et qui a consisté à poser la question suivante. Parce que la question de fond est pourquoi finalement il y a cette étape intermédiaire de glycolyse astrocytaire. Finalement, on pourrait très bien s'imaginer, comme on l'a cru jusqu'à il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à proposer ce modèle, le glucose pourrait aller directement dans le neurone, et puis cette étape intermédiaire glycolytique astrocytaire, peut-être, n'aurait pas... quelle serait la fonction si on raisonne en raisonnement téléologique, finaliste, on va dire, plutôt. Et en fait... je vous l'ai déjà dit, une première raison, peut-être, enfin en tout cas une évidence, c'est que le lactate, pour utiliser du lactate, le neurone n'a pas besoin d'investir d'énergie. Vous vous souvenez peut-être des voies métaboliques. Pour consommer du glucose, il faut investir 2 ATP. Pour consommer du lactate, il n'y a pas besoin d'investir quelque énergie que ce soit. Il est converti en pyruvate et ensuite le pyruvate peut rentrer dans la chaîne, fournir les équivalents pour l'activité de la phosphorylation oxydative. Alors on s'est dit, la question qu'on s'est posée avec Jean-Yves Chaton était de savoir, est-ce que finalement, vu qu'une des fonctions de la terminaison, une des fonctions principales de la terminaison axonale entourée, engainée par ces processus astrocytaires est celle de libérer le neurotransmetteur, en particulier le glutamate, nous nous sommes dit, est-ce que le lactate pourrait être un élément qui favorise la libération de neurotransmetteurs, un substrat énergétique qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la fourniture d'énergie pour soutenir la libération, en sachant que la libération de neurotransmetteurs est due à une dépolarisation de la terminaison, à l'activation de toute une série de mécanismes présynaptiques qui, en tout cas pour ce qui est de la dissipation du gradient électrochimique présynaptique, va coûter de l'énergie pour le rétablir. Alors, ce que nous avons fait, c'est toute une série de manipulations assez compliquées. Je dois dire que c'est Jean-Yves Chaton qui a le mérite d'avoir réussi cette... je ne dis pas cet exploit technique, mais enfin, ce n'était pas évident. C'était donc de marquer les vésicules présynaptiques à l'aide d'un colorant, le FM143, qui est en fait présent dans la, qu'on peut mettre dans le milieu extracellulaire. Et en fait, ces vésicules, lorsqu'elles libèrent le neurotransmetteur, ensuite, comme vous le voyez, enfin je simplifie un tout petit peu, sont ouvertes vers le milieu extracellulaire, peuvent donc se recharger. Il faut juste imaginer cette image un petit peu à l'envers, elles peuvent se recharger, se refermer et recycler. Et donc, soudainement, enfin, après un certain temps d'incubation, on aura des vésicules présynaptiques qui sont chargées d'un colorant. Et donc, on peut ensuite tester comment ces vésicules se déplètent lorsqu'on donne un stimulus dépolarisant. Donc, on peut monitorer de manière optique, en microscopie à fluorescence, l'activité de libération du neurotransmetteur. Et sans rentrer dans trop de détails, voilà en fait ce que ça donne au microscope confocal. Ça donne des images de fluorescence. On fait des doubles marquages pour être certain que en fait, la fluorescence est bien présente dans les vésicules. Enfin, toute une série de contrôles méthodologiques. Mais le résultat important, c'est qu'en fait, le lactate peut maintenir tout à fait, en absence de glucose, peut maintenir, vous avez ici l'activité de libération, on va dire, eh bien, vous avez ici en noir, en barre noire, le maintien de la libération de neurotransmetteurs, donc de vidange de ces vésicules qui ont été préalablement marquées, en présence de lactate sans glucose. Donc, en tout cas, le lactate peut maintenir et soutenir l'activité de libération de neurotransmetteurs, même en absence de glucose. Alors, on est en train de voir si, en fait, il n'y a pas en fait, une activité préférentielle du lactate. C'est quelque chose qui reste encore à déterminer. Cela a été montré pour la libération de glutamate, de GABA, de vésicules donc, inhibitrices, par ce groupe. Je résume là aussi. Aujourd'hui, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite que d'habitude pour vous donner ce panorama global final. Et ce que l'on voit simplement, c'est que voilà la libération de GABA à partir de synaptosomes qui ont été préalablement marqués avec du GABA radioactif. Donc l'idée, c'est que ce GABA est capté par ces synaptosomes qui sont en fait des terminaisons présynaptiques avec des membranes postsynaptiques. Et on peut, c'est une préparation bien établie pour mesurer la libération de neurotransmetteurs. Et on voit qu'en présence de glucose, il y a un certain degré de libération, mais en présence de lactate ou de pyruvate, cette libération est plus importante. Là, on a carrément un effet préférentiel du lactate comme substrat pour libérer du GABA. Donc, une fonction possible de ce lactate, c'est peut-être d'être très efficace comme substrat énergétique pour favoriser la libération. Un autre exemple que je passe en revue de nouveau un peu rapidement, finalement chacun de ces travaux que je présente mériterait une explication d'une dizaine de minutes, mais vraiment c'est une idée simplement pour vous montrer que ce mécanisme de couplage neurométabolique qui implique l'astrocyte, la signalisation par le sodium et la production de lactate semble être peut-être assez générale, en tout cas pas seulement limitée par exemple au cortex. On a ici un travail très joli, vraiment en profondeur, effectué par un groupe japonais, publié l'année passée dans Neurone, qui a étudié alors quelque chose qui n'a strictement, enfin, a priori rien à voir avec le métabolisme énergétique. C'est des personnes qui s'intéressent à la régulation de la concentration plasmatique de sodium, qui est évidemment très importante pour c'est le maintien de l'homéostasie sodique il y a toute une série de mécanismes qui sont bien étudiés et qui mettent en jeu des noyaux hypothalamiques, notamment la vasopressine, pour donner un exemple parmi d'autres. Alors, ce que ces chercheurs ont démontré, c'est qu'au niveau de l'organe subfornical, qui est un organe particulier qui d'ailleurs a au niveau duquel, enfin, qui se trouve, on l'appelle organe, mais en fait, c'est une partie du cerveau qui se trouve à la surface, en contact avec le troisième ventricule, et au niveau duquel, d'ailleurs, la barrière hématoencéphalique est particulièrement perméable. Enfin, peu importe, ces cellules ependimères, ces ependymocytes, qui sont ces cellules qui donc recouvrent les ventricules, expriment des canaux sodiques particuliers, NAX, en fait, ces canaux sodiques sont, et c'est ce travail montre, sont étroitement couplés à la sodium-potassium-ATPase. Donc, dès que le sodium entre par ces canaux, évidemment, la NAK-ATPase va être activée. Et en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est ce que nous avons démontré au niveau de l'astrocyte du cortex, c'est-à-dire que l'activation de la NAK-ATPase va activer la glycolyse, c'est-à-dire un captage de glucose et une production de lactate. Et ce lactate, de plus, en fait, active des neurones GABAergiques qui sont présents dans cet organe subfornical et par une voie alors qui reste à déterminer, évidemment, une voie de projection qui probablement désinhibe une voie inhibitrice de projection vers l'hypothalamus et ensuite la régulation de la concentration en sodium plasmatique va suivre son cours physiologique. Mais si vous voulez, vous avez ici un exemple où il y a une signalisation sodique, exactement comme le sodium qui entre par le transporteur au glutamate glial, que ce signal sodique active une sodium-potassium-ATPase qui lui est couplée, et que cette activation de la pompe active la glycolyse et la production de lactate, et cette production de lactate, en fait, augmente l'activité d'un neurone, dans le cas particulier GABAergique. Donc, vous voyez qu'on aurait pu remplacer ça par tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ce serait pratiquement la même chose. Donc, on peut déduire que c'est quelque chose de probablement, en tout cas plus général, je pense que cette manip est très intéressante. À un autre niveau du système nerveux, de nouveau, l'évidence de la présence de cette navette lactate-astrocyte-neurone, cette fois-ci au niveau hypothalamique, c'est un travail d'un groupe américain, Rossetti à New York, qui en fait est dans le domaine du métabolisme, du diabète, de la régulation de la glycémie cette fois. Eh bien, ces chercheurs ont montré, ce qui d'ailleurs initialement était connu, c'est qu'il y a au niveau hypothalamique des neurones glucosensibles, c'est-à-dire qui détectent la glycémie et dont l'activation résulte en une inhibition de la gluconéogénèse hépatique. C'est une manière de maintenir la glycémie. Si la glycémie augmente, il y a des loops, des mécanismes de feedback, entre autres, évidemment, hypothalamiques, les neurones hypothalamiques détectent le glucose, enfin c'était ce qui était imaginé jusqu'à ce que ce papier sorte, et ensuite cette augmentation de glucose en activant des neurones dans ces noyaux hypothalamiques va inhiber la production de glucose par le foie, donc contribuer au rétablissement de la glycémie. Et bien dans ce travail, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait ce n'est pas directement le glucose qui est détecté par ces neurones hypothalamiques, mais c'est en fait du lactate. Et du lactate, vraisemblablement, alors là, ils n'en portent pas la preuve formelle, mais ils s'appuient sur notre hypothèse pour postuler que ce lactate est produit par les astrocytes. Ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, s'ils inhibent la formation de lactate en inhibant la lactate déshydrogénase, eh bien, l'effet de l'injection de glucose au niveau hypothalamique disparaît. Donc il faut que ce glucose soit transformé en lactate pour qu'il soit détecté par les neurones et pour qu'ensuite ces neurones activés puissent contribuer au rétablissement de la glycémie. Donc vous voyez, quelque chose qui n'a rien à voir quelque part avec la neuroénergétique, ce que nous avons fait, mais en fait une évidence par laquelle le lactate est un signal produit par l'activation métabolique des astrocytes qui a des conséquences sur l'activité neuronale. Et enfin, dernier travail qui vient de sortir, c'est essentiellement, enfin, je ne rentre pas dans les détails, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous donner un survol de beaucoup de choses aujourd'hui pour conclure ce cours, mais en fait, au niveau du noyau rétro-trapézoïde, ils ont mis en évidence, c'est le groupe de Leiter, un rôle du lactate transportés via les transporteurs MCT2, les transporteurs neuronaux. Or, ce noyau rétrotrapézoïde est en fait impliqué dans la régulation du rythme respiratoire. Et il est sensible, entre autres, au pH, bien sûr. Et ce qu'ils ont pu montrer dans des expériences in vivo, c'est que s'ils inhibent les transporteurs au lactate, donc au MCT2, au lactate neuronal, eh bien, ils modifient la fonction de ce noyau rétrotrapézoïde. Et en fait, ils inhibent l'activité de ces neurones et ceci a des implications sur la fonction respiratoire. Donc là aussi, l'idée, c'est que le lactate joue un rôle de signal, cette fois-ci dans encore une autre régulation physiologique, mais conduite et sous le contrôle de neurones dans le système nerveux central. Ces neurones sont plus ou moins activés selon qu'il y a du lactate. Donc vous voyez, je vous ai donné trois exemples en passant, vous pouvez les creuser en allant voir la littérature. Au niveau de l'homéostasie sodique, par le biais de l'organe subfornical et cette signalisation lactate, enfin sodium-lactate, au niveau de certains noyaux hypothalamiques dans la régulation de la glycémie, dans une boucle de régulation de la glycémie, et là, au niveau du noyau rétrotrapézoïde, au niveau de la régulation du rythme respiratoire. Voilà. Alors, voilà pour ce qui était de conclure ce chapitre, qui, si vous voulez, que j'avais abordé la dernière fois, qui m'a amené à discuter le rôle de la glycolyse gliale dans diverses fonctions neuronales. Et je vous ai même bien de vous montrer quelques exemples au niveau intégré. Alors, j'aimerais aborder un point que j'ai discuté en passant quelques fois au cours de mes leçons et qui est celui du coût énergétique de l'inhibition. Et en particulier, quelle est la détection qui en est faite de cette activité inhibitrice par les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. En fait, une question qui est posée en neurobiologie depuis une cinquantaine d'années, c'est est-ce que l'inhibition coûte plus cher ou moins cher que l'excitation? Est-ce que la transmission GABAergique coûte plus cher ou moins cher? Alors, comme je vous l'ai dit, ceci pourrait sembler une sorte de diatribe d'experts, mais en fait, ça a des implications pour l'imagerie cérébrale. La question étant, comme ce que l'on voit en imagerie cérébrale, c'est une augmentation de la consommation énergétique, que ce soit débit sanguin, que ce soit consommation de glucose, est-ce que lorsque l'on voit une activation métabolique, est-ce que c'est nécessairement le fruit ou le résultat d'une activation glutamatergique, excitatrice, par ce mécanisme, ce qui paraît évident, mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une activation GABAergique qui coûte de l'énergie? Donc là, c'est une question vraiment importante pour l'interprétation des signaux. Alors là, je résume beaucoup de travaux. Je vous réfère à une très bonne revue de Buzaki et Raykel qui vient de sortir dans Neurones. Et puis, éventuellement, si vous avez le temps et l'envie, au texte de ma leçon inaugurale qui va sortir après l'été aux éditions Fayard, comme toutes les leçons inaugurales du collège. Et parce que j'ai abordé ce point dans le courant de ma leçon inaugurale. Donc, la première chose qu'il faut noter, je vous l'ai déjà mentionné une ou deux fois, c'est qu'en fait, d'une part, les neurones GABAergiques sont pour l'essentiel des interneurones. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des projections GABAergiques, la voie striato-nigrale, par exemple, pour n'en mentionner qu'une. Donc là, il y a des neurones qui ont des axones, des neurones GABAergiques qui ont des axones qui projettent à distance. Mais pour la plupart, en tout cas pour le cortex, l'essentiel des neurones GABAergiques sont des interneurones. Premier point. Deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, la sortie d'un circuit, par exemple d'une voie pyramidale, cortico-fugale, en fait, est la résultante d'entrée, d'input, excitateur et inhibiteur. Et qu'il y a en fait en permanence dans un ensemble, dans un circuit neuronal, un équilibre d'activation, entre activation et inhibition. Et si l'excitation prédomine, le circuit va produire une sortie. Et si ce n'est pas le cas, il n'y aura en fait aucun signal, aucune activité électrique. Mais, et c'est là ce qu'il faut avoir à l'esprit, prenez maintenant le cas de ce neurone pyramidal qui reçoit des afférences glutamatergiques. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ces afférences glutamatergiques ne sont pas restreintes aux neurones pyramidales. D'ailleurs, la plupart du temps, elles passent également par des interneurones, notamment des interneurones inhibiteurs, mais aussi d'autres types d'interneurones corticaux, des neurones AVIP, à somatostatine, enfin des neurones de la couche 4 en particulier. Ce qui veut donc dire, en passant, c'est que lorsque du glutamate est libéré, il y a aussi une activation GABAergique. Mais enfin, restons-en ici à ce neurone pyramidal qui reçoit, et là évidemment c'est extrêmement simplifié, les circuits sont bien plus que trois neurones, mais pour simplifier, donc que se passe-t-il au niveau de ce neurone pyramidal qui reçoit des afférences excitatrices et inhibitrices? Et vous voyez ici ce qui se passe au niveau cellulaire. Le glutamate libéré va activer des récepteurs ionotropes, AMPA, NMDA, donc essentiellement augmenter les flux transitoirement des flux sodiques et calciques, mais en tout cas sodiques, par les AMPA, ce qui va dissiper, contribuer à la dissipation du gradient électrochimique sodique, donc à l'activation des mécanismes comme la pompe pour rétablir le gradient sodique. Mais ce neurone, en même temps, reçoit des afférences GABAergiques qui agissent sur des récepteurs GABA-A, disons, qui sont des récepteurs ionotropes perméables au chlore. Et, en fait, ça aboutira à une entrée de chlore. Et là aussi, il y aura un rétablissement de ce gradient par le biais d'échangeurs, mais qui nécessite aussi des gradients potassiques, donc en fait qui entre en jeu en quelque sorte également avec la sodium-potassium ATPase. Donc, en fait, la convergence de ces afférences excitatrices et inhibitrices, quel que soit le résultat final en termes de sortie du circuit, va dissiper des gradients électrochimiques, donc va coûter de l'énergie. Et en fait, j'ai tiré cette phrase de ma leçon inaugurale, le point important est donc que même en l'absence d'activité électrique résultant de la convergence d'entrée excitatrice et inhibitrice, donc même en l'absence d'activité électrique, il y aura un coût énergétique significatif qui se traduira par une image d'activation en imagerie fonctionnelle cérébrale, notamment en TEP. Voilà pourquoi la question du coût de l'inhibition, considérée en termes absolus, pourrait rester sans réponse et signifie qu'en imagerie fonctionnelle, une région qui produit un signal métabolique pourrait en fait être inhibée et non activée. Voilà un paradoxe qu'il convient de considérer. Donc ça, c'est un point que j'aimerais porter à votre attention, parce que si en fait on se concentre sur les caractéristiques, sur certaines caractéristiques qui pourraient avoir une implication pour la neuroénergétique, caractéristiques des neurones GABA et glutamate, on voit par exemple que les neurones GABA dans l'hippocampe en fait, ont un réseau axonal de 1,5 km. Or, alors que les neurones à glutamate ont 40 km. Donc vous voyez la surface de membrane à travers laquelle il faut garder des gradients électrochimiques est considérablement différente. Et on pourrait se dire, voilà, donc les neurones à glutamate coûtent beaucoup plus cher. Peut-être, mais en même temps, les neurones à GABA ont un potentiel de membrane qui est moins négatif, donc ça coûte moins cher de maintenir le potentiel de repos, et donc, mais en même temps, ils sont plus facilement activables. Enfin, vous voyez que si on, en fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que si on prend les caractéristiques intrinsèques de ces systèmes de neurones, de ces deux types, de ces grands systèmes de neurones, qui rendent compte de 95% des synapses, 80-85 pour le GABA, 10 à 15 pour le pour le glutamate, 10 à 15 pour le GABA, on s'en sort pas vraiment. Ce qui est vraiment critique, c'est de bien saisir cette question de la convergence et que quelle que soit la sortie du point de vue électrophysiologique, d'excitabilité, il y aura un coût énergétique. Et en plus, vous vous souvenez, là je vais aller rapidement parce que je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Nous pensons que ce système de vagues métaboliques médiées par le réseau astrocytaire est un moyen de fournir de l'énergie à un volume beaucoup plus grand que celui qui est en relation aux quelques synapses glutamatergiques et que donc les neurones à GABA pourraient bénéficier de cette arrivée d'énergie, de substrat énergétique. Vous vous souvenez que cette vague calcique produit la libération de glutamate et qu'en fait, cette libération de glutamate, on l'avons démontré avec de nouveau Jean-Yves Chaton et Yann Bernardinelli, provoque une vague métabolique et que cette vague métabolique, en fait, va justement intéresser un volume de cortex plus important que simplement la synapse glutamatergique initialement activée ou les synapses. Et donc, si dans ce volume, il y a des neurones à GABA, ce qui est évidemment le cas, ces neurones bénéficieront de cet apport énergétique déclenché initialement par le système glutamatergique. Voilà. Voilà pour ce qui était de l'inhibition. C'était un deuxième point. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, j'essaie vraiment de bien remplir tous les aspects que je pense être importants avant de terminer ce cours. Donc, voilà cette réflexion autour de la transmission inhibitrice qu'il faut garder à l'esprit, et je le répète, ce n'est pas simplement un intérêt pour spécialistes, mais c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur l'interprétation des signaux d'imagerie fonctionnelle. Nous voici donc de retour à l'imagerie fonctionnelle, justement, et là, j'aimerais aussi aborder un point qui me semble être très important, qui a été surtout traité par de nouveau Mark Raichel au cours de ces 5-6 dernières années et qui adresse un point qui me semble fondamental dans la compréhension du fonctionnement cérébral. Comme je vous l'ai d'ailleurs montré souvent et comme vous le voyez dans les magazines, les revues scientifiques et même des magazines non scientifiques, on voit beaucoup, bon là c'est un petit schéma, mais enfin on voit beaucoup ce type d'image, c'est-à-dire des régions d'activation. On fait bouger une main, on voit l'activation du cortex moteur et quelques autres, on montre une image triste, on voit l'activation de l'amygdale et de quelques autres régions. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le fonctionnement, les paradigmes expérimentaux d'imagerie sont, dans le 95% des cas, des paradigmes d'activation. C'est-à-dire, on veut voir quelle région, quel réseau est activé lors d'une certaine tâche comportementale. Et là, c'est l'exemple le plus simple, peut-être, c'est cet échiquier qui bouge, qui produit une stimulation visuelle très forte et qui résulte en une activation du débit sanguin dans le cortex visuel primaire, dans la consommation de glucose, vous vous souvenez un peu moins la consommation d'oxygène. Et voilà. Et puis, comme je vous l'ai déjà montré, ce sont des images de soustraction qui donnent naissance à ces images, c'est-à-dire que l'on soustrait de la condition d'activation, de l'image obtenue en activation, on soustrait l'image dite basale, et par soustraction, on obtient ces régions activées. Mais il y a quelque chose de particulier, il y a deux choses particulières sur lesquelles j'aimerais m'attarder un instant. Tout d'abord, je ne pense pas très longtemps parce qu'on l'a déjà discuté, vous vous souvenez, je vous ai indiqué que, en fait, la consommation d'énergie basale est déjà très élevée. En fait, dans ces images de soustraction, la différence entre l'activation et le basal est de l'ordre de 10, 15, 20% grand maximum dans la région activée. Donc, il y a déjà une question à se poser, pourquoi le cerveau a une telle activité basale importante? Comme j'aime bien prendre cette image, le cerveau est comme un moteur qui tournerait en permanence à 6000 tours, et puis de temps en temps, il passe à 7000 tours dans des régions particulières. Donc, question numéro 1, quelle est la signification de ce basal? Là, on pourra peut-être en discuter. D'ailleurs, je l'ai déjà brièvement mentionné. Mais d'un point de vue méthodologique, de nouveau, d'un point de vue de l'imagerie, des signaux d'imagerie, ça implique, et beaucoup de gens ont simplement éliminé cette observation comme étant du bruit de fond, comme étant quelque chose d'inintéressant. Si vous avez un niveau élevé d'activation, bien sûr, vous pouvez vous imaginer qu'il y a, un niveau élevé de basal, vous pouvez vous imaginer, c'est ce qu'on voit, il y a de l'activation, des zones qui sont plus activées, mais si vous partez d'un niveau basal très élevé, vous pourriez aussi vous imaginer qu'il y a des régions qui vont être moins actives, qui vont, dans certaines conditions, être déactivées, on va dire. Et c'est en fait, si vous regardez tout simplement un signal BOLD, donc un signal que j'ai discuté la dernière fois, le signal d'imagerie d'IRM fonctionnel, vous voyez deux choses. D'abord, vous voyez qu'il y a beaucoup de fluctuations dans ce signal, mais vous voyez que dans certaines conditions, donc là, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ce n'est même pas une stimulation, c'est simplement les yeux ouverts ou fermés, vous voyez que lorsque les yeux sont fermés, il y a des petits signaux négatifs. Hein, si on prend la ligne de base ici, il y a des signaux négatifs. Et là, représenté ici, vous avez en fait une ligne de base ici. Là, vous avez l'activation, stimulation visuelle. Là, vous auriez, et vous aurez, comme je vais vous le montrer, une déactivation. Et en fait, vous pouvez déduire, en quelque sorte, le fait qu'il existe une ligne de base qui peut fluctuer entre activation et déactivation. En fait, cette ligne de base et ce signal d'activation ou de déactivation va être déterminé par le degré, par combien, en fait, le débit sanguin et le glucose et la consommation de glucose augmentent. Parce que, comme vous vous souvenez, l'augmentation de la consommation d'oxygène est relativement faible. Si vous vous souvenez, ici, vous avez la consommation d'oxygène à une minute. Vous voyez qu'il y a une augmentation de l'ordre de 4%, alors que le débit sanguin augmente, lui, de 20 ou 30%. Et vous vous souvenez, je ne reviens pas là-dessus parce que ça prendrait trop de temps, j'espère que vous vous en souvenez, c'est que le signal BOLD est produit par le fait que, justement, il y a une augmentation du débit sanguin et qui s'accompagne d'une utilisation de glucose non oxydative, ce qui explique pourquoi l'augmentation d'oxygène est faible. Ça change le rapport oxy-déoxy-hémoglobine et c'est ça qui produit le signal d'IRM fonctionnel. Donc, ce découplage est très important. Donc, imaginez une situation où finalement, si vous avez une ligne de base, vous pouvez avoir plus ou moins d'augmentation de débit et de consommation de glucose. Et en fait, vous pouvez imaginer qu'il se définit en fait une zone où il y a déactivation, où le signal BOLD va être inférieur à ce qu'on appellerait la ligne de base. Ça, c'est le premier point. Je vais par étapes parce que c'est un concept peut-être un peu difficile, mais qui est absolument fondamental. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir activation, c'est ce à quoi la plupart des groupes s'intéressent, mais il faut savoir qu'il y a dans cette ligne de base aussi des moments de déactivation. Alors, ce que Raichel et ses collègues ont mis en évidence, c'est la chose suivante. Lorsque vous regardez, cette fois-ci, de manière globale, vous vous intéressez à toutes les régions cérébrales, vous faites une analyse voxel par voxel, vraiment point par point de l'image, et que vous regardez ce qui se passe en termes de signal BOLD chez des sujets qui, alternativement, sont activés clairement, c'est-à-dire on leur montre une image, ou au contraire, des sujets à qui on demande, entre guillemets, ne penser à rien. Ils sont dans la machine, ils ont les yeux fermés, ou même ils fixent un point, mais c'est une croix, enfin, qui n'a aucun contenu symbolique particulier. Donc, on peut comparer deux états du cerveau, un état activé, ciblé sur une tâche, et puis un état non ciblé, un état comme ça, qui est actif, bien sûr, mais qui n'est pas ciblé sur une tâche particulière. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des régions qui sont plus actives lorsque, vous me passez l'expression, le sujet ne pense à rien, et au moment où le sujet se concentre sur une tâche, visuelle, autre, n'importe laquelle, ces régions sont déactivées. Vous voyez le paradigme? Et en fait, c'est ce que Raichel a défini le « default mode », ou l'activité cérébrale par défaut. C'est-à-dire, il s'agit d'un réseau, en regardant de manière très attentive toutes les régions cérébrales, il a vu qu'il y a un réseau qui est hautement en fait, corrélé en termes d'activité, qui est moins actif lorsque le sujet est concentré sur une tâche. Lorsque le sujet n'est plus concentré sur une tâche, l'activité augmente dans ces régions. Et en fait, ces régions, c'est un système qui est très reproductible, qui se manifeste en fait n'importe quelle que soit la tâche spécifique que l'on demande au sujet. Chaque fois que le sujet passe de la tâche spécifique à une à sans tâche, c'est-à-dire il ne pense à rien, eh bien, quelle que soit la tâche d'activation spécifique, ce système de défaut est activé lorsque la concentration sur une tâche disparaît. Et en fait, cette région, ce système par défaut implique le cortex préfrontal médian, ici, le cortex singulaire postérieur, voilà cette région, le précuneus qui est aussi dans cette région, et certaines zones du cortex pariétal, latéral et médian. Donc vous voyez, frontal, ici singulaire postérieur, ici pariétal, latéral. Donc voilà les quatre régions qui définissent ce que l'on appelle le default system. C'est un système qui est particulièrement actif quand on ne fait rien, pour le dire simplement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on fait des analyses de corrélation, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, cette région-ci, ce cortex pariétal latéral, comme point de repère, et on regarde les fluctuations dans toutes les autres régions cérébrales en condition de défaut, enfin d'absence de tâche, eh bien, on trouve une corrélation très forte avec ces quatre régions. Donc, c'est des régions qui semblent en plus être connectées et constituées donc un réseau neuronal qui intéresse plusieurs régions du cerveau, préfrontal médian, singulaire postérieur et pariétal latéral et médian, certaines régions. Et ce système est actif lorsqu'il n'y a pas de tâche focalisée qui est effectuée. Alors, bon, là aussi, vous me direz, voilà, là, vous avez un autre exemple, c'est un peu touffu comme schéma, mais enfin, je résume très simplement. On prend ici le cortex postérieur singulaire, le singulaire postérieur, ici, comme point fixe, et on voit, on peut déterminer quelles sont les régions qui sont corrélées et celles qui sont non corrélées. En fait, vous voyez qu'il y a justement ce cortex préfrontal médian qui est corrélé en termes d'activité avec ce cortex singulaire postérieur. Par contre, ici, une autre région plutôt postérieure, et elle est anticorrélée, c'est-à-dire qu'elle est activée lorsque ce système de default est activé, elle est moins activée. Donc, la question qui s'est posée, alors j'ai juste pris ce texte parce que c'est une jolie définition de ce default network, donc ils disent, Raichel définit ce système de default network, ce sont des régions qui sont caractérisées par une diminution de l'activité neurale pendant des tâches ciblées. Alors, il y a beaucoup de discussions autour de à quoi servent ces régions de default mode, et elles ont été définies comme étant impliquées dans des activités autoréférentielles, introspectives, de narration interne, de pensée indépendante de la stimulation. Moi, j'aime bien le terme de activité offline. Le cerveau fonctionne online, c'est-à-dire qu'il reçoit des afférences et des stimulations du monde externe, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que je suis en train de faire maintenant, mais il y a aussi un processing de toutes ces informations qui se produit offline, comme beaucoup de systèmes que l'on peut imaginer. Alors, la question qui se sont posées, c'était, c'est pour ça que je voulais juste vous montrer en quelques minutes des élaborations autour de ce concept qui me semble très important. C'est donc vraiment un système qui est actif lors de la pensée, enfin lorsqu'on pense sans être nécessairement concentré sur une tâche particulière. Alors bon, c'est vrai, on peut l'appeler introspectif, self-référentiel, etc. Ça reste une question, un débat intéressant. Ce que Raichel et collaborateurs ont voulu regarder, c'est deux choses. D'abord, est-ce que ce système est présent dès la naissance, Est-ce que c'est quelque chose qui s'établit, qui est réglé de manière développementale? Et deuxièmement, est-ce que dans certaines pathologies, ce système est plus ou moins, ce système de défaut est plus ou moins actif? Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ils ont comparé des adultes avec des enfants entre, si je ne m'abuse, en dessous de 10 ans en tout cas. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que ces régions, de nouveau, ici, le pariétal postérieur, ici, vous avez le singulaire postérieur, etc. Donc ça, c'est région que je viens, le pariétal latéral, ce que je viens donc de définir. Eh bien, vous voyez que par ces analyses statistiques d'activation ou déactivation, en fait, chez les enfants en bas âge, en dessous de 10 ans, ce système n'est pas actif encore. Donc, c'est des résultats très récents qui viennent d'être publiés. Et je crois que c'est une donnée intéressante. Ce que ça montre, je crois aussi, c'est que, bien sûr, on peut faire de l'imagerie comme ça, faire du mapping. Qu'est-ce qui est activé quand je fais ceci, quand je fais cela? Mais vous voyez qu'on peut extraire beaucoup d'informations par des techniques d'imagerie, surtout lorsqu'on a en tête les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont à la base de ces signaux. Quand on pense à l'augmentation du débit sanguin, quand on pense à la consommation de glucose de manière non oxydative, enfin, et tout ça n'a pu être réalisé que parce qu'il y a ces connaissances sur les mécanismes cellulaires. Et on verra ce que ça pourra donner, mais donc le résultat, enfin disons l'interprétation actuelle, c'est que ce système hautement connecté default system, système par défaut, qui en fait met en jeu tout, qui fait que ces aires particulières ici sont connectées et actives lorsqu'il n'y a pas de tâche particulière. Ce système, appelons-le comme ça, introspectif, est présent chez l'adulte, mais très peu encore chez l'enfant. Deuxième question, est-ce qu'il y a des pathologies dans lesquelles, en fait, ce système de default ne fonctionne pas, au moins. Donc l'idée, c'est de dire, on va demander à des sujets d'effectuer une tâche et ensuite, on arrête la tâche et on regarde si, lors de l'arrêt de la tâche, le default system s'active, le système de déactivation, le système default, c'est le meilleur terme, est activé. Donc il est activé en absence de tâche. Alors, cette étude a été conduite sur des personnes âgées, et sur des patients souffrant de maladies d'Alzheimer pas trop avancées, parce qu'il y a quand même une tâche, de sujets souffrant de troubles cognitifs quand même assez importants, mais pas trop invalides. Et les différentes régions ont été analysées, le cortex frontal gauche, qui est donc celui qui est particulièrement activé dans cette tâche de classement lexical, de lexical, et puis les régions qui font partie de ce default system, le cortex pariétal droit, le cortex frontal médian et le cortex singulaire postérieur. Alors, voilà le protocole. Donc, il y a la tâche, et ensuite, on arrête et on regarde quelles régions sont activées dans cette absence de tâche. Alors, bon, là, c'est l'activation. Ça, c'est, par contre, la région qui est engagée dans la tâche. Il n'y a pas de différence énorme. Il y a un peu plus d'activation chez les personnes âgées ou ces patients souffrant de maladies d'Alzheimer. Donc, comme si ça demandait, pour imaginer ça, un peu plus de travail pour effectuer la même tâche. Il n'y a pas de grande différence dans le cortex pariétal droit. Elles se déactivent toutes durant la tâche. En fait, ce que les gens regardaient ici, c'était la déactivation pendant la tâche. Le cortex frontal médian, là, il y a tout de même moins de déactivation chez les personnes âgées et les patients souffrant d'Alzheimer. Mais alors, ce qui est absolument frappant, c'est qu'au niveau du cortex singulaire postérieur, les patients souffrant d'Alzheimer et les personnes âgées ne déactivent pas. Donc, ce système default reste actif pendant la tâche. Donc là, il y a une signature intéressante qui met en jeu ce système, en tout cas une partie de ce système de default dans une pathologie. Et bon, ça c'est une autre illustration. Vous avez ici les régions qui s'activent, et là vous avez les régions qui se déactivent en bleu. Et vous voyez chez les personnes jeunes, il y a toutes ces régions en bleu, justement qui se désactivent pendant la tâche. Ça, c'est celle qui s'active, c'est le cortex frontal droit qui est impliqué dans la tâche. Mais là, vous avez par exemple le cingulaire postérieur et le pariétal médian, là, qui sont déactivés. Par contre, chez la personne âgée ou la personne alzheimerisée, vous voyez que ce bleu, il y a beaucoup moins de bleu, pour simplifier. Donc, il y a beaucoup moins de déactivation. Voilà. Alors, j'aborde maintenant le dernier point, qui est celui de... En fait, ça fait une transition, ce que je viens de montrer, avec l'implication... Enfin, est-ce qu'il y a des changements dans les signaux d'imagerie dans des pathologies neuropsychiatriques? Je viens de vous montrer un signal particulier, celui de déactivation dans le cingulaire postérieur dans la maladie d'Alzheimer, mais il est évident que ces techniques d'imagerie ont été appliquées à large échelle aussi pour explorer les diverses pathologies neuropsychiatriques et de nouveau, toujours en gardant à l'esprit le fait que ce signal, en particulier le signal de déoxyglucose, mais comme je vous l'ai montré la dernière fois, également les signaux d'IRM fonctionnels et de spectroscopie, sont produits en fait par ce couplage neurométabolique qui implique l'astrocyte. Alors, vous avez ici une image, disons, très, très parlante et très évidente, un cerveau normal et le pattern d'activité, de consommation de glucose dans un cerveau normal, ce qui est rouge et correspond à beaucoup de, à une consommation de glucose élevée en basal. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez que là, il y a des activations postérieures importantes. Par contre, un cerveau d'Alzheimer, vous voyez malheureusement cette atrophie importante et, ce qui n'est pas surprenant, beaucoup moins d'activité de consommation de glucose. Finalement, ce n'est pas vraiment étonnant. Il y a moins de neurones, il y a moins de glutamate libéré, il y a moins d'activation de la glycolyse gliale, il y a moins de captage de glucose. Tout ça paraît assez, assez logique, assez simple. Ce qui est intéressant, par contre, et maintenant il y a vraiment plusieurs études qui ont validé ceci, c'est si l'on prend des sujets qui présentent d'un point de vue statistique, ils appartiennent à un groupe qui est plus vulnérable à la maladie d'Alzheimer, c'est les personnes qui expriment cette forme de ce gène, qui est le gène qui code pour l'apolipoprotéine E, et la forme 4, ce gène existe sous, c'est un polymorphisme, il y a un polymorphisme de ce gène, donc le gène, la forme 4, est associée à un risque statistique plus élevé, 3, c'est neutre, et 2, ça, on dirait, c'est même protecteur. Mais ces sujets sont des sujets, on a comparé donc dans cette étude de Reimann, voilà, ça on retrouve ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire patients souffrant de démence avec une atrophie corticale mise en évidence par RMI, par résonance magnétique structurelle, et en consommation de glucose, on voit, si vous comparez au contrôle, on voit une diminution importante, il y a beaucoup moins de rouge qu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux sujets qui appartiennent à ces groupes particuliers, un qui n'a pas d'APOE4, qui a probablement la 3 ou la 2, et un sujet avec APOE4. Ces sujets ont une fonction cognitive normale et n'ont pas, en tout cas à l'évidence, d'atrophie corticale. Mais ce que vous voyez, c'est que déjà à ce stade, même en absence de tout signe clinique ou structurel, il y a une diminution de la consommation de glucose dans des régions d'ailleurs qui sont celles qui vont dégénérer en premier dans la maladie d'Alzheimer. Donc on voit là qu'il y a un déficit métabolique qui précède l'expression de la pathologie. Et la question se pose, et c'est une ligne de recherche que personnellement je suis avec mon groupe, c'est de se dire, est-ce que, en tout cas, il n'y a pas une contribution d'un déficit neuroénergétique dans la vulnérabilité à la neurodégénérescence? Je ne dis pas que c'est peut-être la cause, mais enfin, en tout cas, une vulnérabilité. S'il y a un déficit dans ce couplage neuroglial, est-ce que les neurones ne sont pas plus vulnérables? Et c'est quelque chose qu'on est en train d'aborder en ce moment. Alors, là, je passe en revue très rapidement quelques données de la littérature et quelques données de notre groupe. Là, un article qui vient de sortir aussi, très récent, au mois de mars 2008, qui a été conduit sur un groupe important de patients souffrant de maladie d'Alzheimer, enfin décédés après un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et ces chercheurs ont en fait déterminé le niveau d'expression de toute une batterie de gènes codants pour des enzymes de la phosphorylation oxydative, de l'activité mitochondriale. Et en fait, ils ont fait des dissections de neurones autour desquels il n'y avait pas de plaques d'amyloïdes. Donc, c'est des résultats cellule par cellule. Et en fait, ce qu'ils démontrent, c'est que tous les complexes de la chaîne oxydative, que ce soit le complexe 1, 2, 3 ou 4, en fait, sont considérablement diminués. Donc, l'expression de gènes particuliers, mis en évidence par une analyse transcriptomique, et même, tout simplement, donc avec des anticorps contre ces protéines. Donc, il y a clairement un trouble métabolique au niveau neuronal, dans le cas particulier, je tiens à le souligner. Alors, en se basant sur, pas nécessairement sur ce dernier travail, mais sur ce travail précédent, qui laisse envisager la possibilité qu'il y ait un déficit métabolique qui précède, en fait, la neurodégénérescence, on s'est dit, avec un groupe à Stanford, le groupe de Bob Sapolsky, on s'est dit, mais en fait, on pourrait imaginer de, si vous me passez l'expression, de booster, de renforcer cette navette, lactate, en surexprimant le transporteur au glucose glial, pour que plus de glucose soit capté, et en surexprimant le transporteur au lactate neuronal, pour que le neurone capte plus de lactate. Et de voir si, dans des conditions de ce type, on protège les neurones contre une attaque de excitotoxicité. Et en fait, ce sont des résultats qu'on a publiés il y a 2-3 ans et qu'on reprend maintenant dans un autre contexte, dans un contexte in vivo. Pour l'instant, ce sont des travaux qui ont été faits en culture, in vitro. La première chose que l'on a fait, on a transfecté par des vecteurs viraux MCT2 dans les neurones et on voit qu'ils captent plus de glucose, plus de lactate, en particulier en présence de glutamate. Donc, quand les neurones sont activés par le glutamate, s'il y a plus de transporteurs au lactate, ils vont prendre plus de lactate. Premier point important à déterminer. Deuxième point, on voit que en fait, les neurones exposés à du glutamate survivent mieux s'ils expriment plus de MCT2. Donc, si on leur permet de capter plus de lactate, les neurones sont plus résistants à une attaque excitotoxique. Alors, deuxième série de travaux, ce que nous avons fait, nous avons regardé si, lorsque on surexprimait le transporteur au glucose dans les astrocytes, cette fois-ci, qui impliquait, je ne le montre pas ici, mais une production de lactate plus importante, donc une activation de la glycolyse, est-ce que dans un dispositif expérimental qui met en présence les neurones, en présence d'astrocytes, mais séparés par un petit ami, il se trouve que si les astrocytes ont été surexpriment le transporteur au glucose, eh bien, ils exercent un léger effet neuroprotecteur sur les neurones. Et puis, alors là où c'est le plus frappant, c'est que si on combine les deux, vous avez ici la condition contrôle, vous avez ici surexpression de transporteur au glucose dans les astrocytes, surexpression du MCT2 dans les neurones, ça confère une certaine neuroprotection, et les deux transfectés sélectivement, l'un dans les neurones, l'autre dans les astrocytes, ça confère encore plus de protection. Donc l'idée, c'est que si on pousse la navette lactate, on produit, en tout cas in vitro, un effet neuroprotecteur. Alors, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est dans un modèle in vivo de sclérose latérale amyotrophique, ce genre d'expression, en collaboration avec le groupe de Patrick Ebischer. Voilà. Alors, ça, c'était pour la neurodégénérescence. Passons maintenant à une autre implication possible de ce dialogue métabolique neurone-glie. Cette fois-ci, ce sont des observations faites post-mortem chez des patients souffrant de dépression majeure. dans lesquelles une analyse transcriptomique, donc 25 000 gènes, ont été examinés pour leur niveau d'expression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois gènes qui sont diminués, dont l'expression est diminuée, dans le cortex préfrontal latéral chez ces patients. Et en fait, ces trois gènes, ce sont les gènes qui codent pour des gènes glio, c'est-à-dire les deux transporteurs au glutamate et la glutamine synthase. Alors, ce qui veut dire que dans ces sujets, on peut imaginer que ce système de couplage qu'on a décrit en détail, c'est-à-dire recaptage du glutamate et traitement de conversion du glutamate en glutamine, donc ce sont les deux transporteurs au glutamate glial et la glutamine synthase qui sont sous-exprimés, eh bien, si ce signal, surtout le niveau de ce transporteur au glutamate glial, est moins exprimé, c'est clair que le couplage neurométabolique va être moins efficace. Le signal sodique, l'activation de la pompe, enfin, tout ce qui s'ensuit va être moins efficace. Ce qui devrait aboutir à une diminution de l'entrée de glucose et donc de la consommation de glucose déterminée par, notamment les techniques d'imagerie. Et en fait, un papier très récent de spectroscopie IRM, conduite ici au niveau frontal, en fait, démontre, et en particulier le cortex préfrontal dorsomédian et antérieur, vous avez ici les niveaux de GABA, de choline et de N-acétyl-aspartate. Oui, en fait, et ça c'est le signal glutamate et glutamine, en fait c'est un signal conjoint. C'est ça que c'est le glutamate et la glutamine. Et vous voyez que les patients souffrant de major depressive disorder, il y a en fait, comparé au contrôle, une diminution significative au niveau du glutamate-glutamine et au niveau également du GABA, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où le glutamate est le précurseur pour le GABA. Mais du point de vue, là je vais sauter un tout petit peu, du point de vue des techniques d'imagerie, en termes de consommation de glucose, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de glucose dans les régions frontales chez les patients souffrant de dépression. Vous avez ici de nouveau des exemples, contrôle des depressed, vous avez ici ces consommations qui sont diminuer ces consommations de glucose qui sont diminuées dans ces régions frontales. Elles sont en fait augmentées au niveau de l'amygdale. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que le traitement à la fluoxétine rétablit en partie seulement, mais en partie, ces consommations de glucose. Donc, pour revenir à ce schéma, par rapport à ce travail de transcriptomique, l'idée c'est que si le signal de couplage neurométabolique est diminué parce qu'il y a une expression diminuée de ces transporteurs, le signal d'imagerie va aussi être diminué dans ces régions, ce qui est bien le cas. Voilà, vous me permettez, je prendrai encore 5 minutes pour conclure. Et juste vous donner 4 ou 5 flashs et des références pour l'implication de la glie, d'une manière générale, et dans certains cas du couplage métabolique neuroglial dans d'autres pathologies. J'ai passé brièvement en revue la maladie Alzheimer. On vient de voir quelque chose qui a trait à la dépression. Il y a un travail récent qui montre en fait une diminution, une anomalie, une mutation qui est exprimée dans des familles qui ont des migraines hémiplégiques. Et il se trouve que la sous-unité qui est mutée est la sous-unité exclusivement gliale de la NAK-ATPase. Donc là, il y a des travaux de Moskowitz à Boston qui ont démontré et confirmé, il y a maintenant plusieurs travaux qui démontrent cette mutation qui est un loss of function, donc une perte de fonction, au niveau de la sodium-potassium ATPase gliale. Et évidemment, on a vu l'importance de cette pompe sodique dans le signal et dans la fourniture de lactate aux neurones, dans l'activation de la glycolyse. Donc là, il y a une pathologie qui est gliale sélectivement et qui résulte en une pathologie clinique, l'hémiplégie familiale, la migraine hémiplégique familiale, et qui pourrait, disons, d'abord, c'est, comme je l'ai dit, sélectivement glial, et deux, ça pourrait être intégré au niveau de ce couplage neurométabolique. Ensuite, là, c'est un travail très intéressant du groupe de Maiken Nedergaard, qui propose quelque chose qui est dans la littérature depuis très longtemps, mais là, c'est quelque chose qui est vraiment démontré de manière très convaincante, c'est le rôle des astrocytes dans la propagation de l'hyperexcitabilité dans l'épilepsie. Et en fait, je vais de nouveau aller un peu vite parce que malheureusement, je n'ai pas le temps, mais je vous réfère à ce travail qui est intéressant, qui est très, très touffu, très, très bien fait. En fait, ce que Nedergaard a fait avec ses collaborateurs, elle a, par photoactivation, déclenché une vague calcique dans le réseau astrocytaire, et elle voit que en absence, en ayant bloqué complètement l'activité neuronale en termes d'activité de potentiel d'action par toutes sortes de manipulations pharmacologiques, il demeure tout de même une hyperexcitabilité qui ne peut être due que à la propagation de cette onde calcique et la libération de glutamate qui s'ensuit. Donc, ce que Nedergaard propose, et tout ceci est une analyse pharmacologique très fouillée, c'est de dire qu'en fait, le réseau astrocytaire contribuerait à l'amplification de l'hyperexcitabilité dans le cas de l'épilepsie. Et c'est en fait, voilà, c'est ce que je montre là. Et enfin, un dernier travail qui vient de sortir aussi, qui est dans le cas de la sclérose latérale amyotrophique. C'est un modèle animal de sclérose latérale amyotrophique qui est en fait une souris qui surexprime l'enzyme superoxyde dismutase, dont je vous ai parlé dans le cadre du métabolisme des radicaux libres et du potentiel redox. Et en fait, ce que on sait que ces souris ont une survie de quelques, ça dépend des souches, mais enfin autour de 300-400 jours. Et donc, c'est un modèle très bien caractérisé et quantifié. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont sélectivement inhibé l'expression de la SOD dans les astrocytes. Donc, cette SOD est surexprimée partout, mais ils l'ont sous-exprimée. Ils ont réussi à la neutraliser par une technique de ciblage très moléculaire, de sous-exprimer la SOD sélectivement dans les astrocytes. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est que cette sous-expression de la SOD astrocytaire sélective prolonge de manière significative la durée de vie de ces animaux. Donc, il y a une cible moléculaire qui est purement astrocytaire, et en ciblant, ceci a un effet sur le décours de la maladie. Donc, voilà un autre exemple de l'implication de la glie dans une pathologie. Voilà, écoutez, j'arrive à la fin de ce cours. Aujourd'hui, j'étais un petit peu plus rapidement que d'habitude, mais bon, c'était le dernier cours et je tenais à vous présenter un certain nombre de choses, quitte à ce que vous les élaboriez sur la base de cette littérature. Donc, ce que nous avons vu, c'est l'importance de couplage neuroglial et vasculaire dans la neuroénergétique. Et il n'y a pas que de l'énergie sous forme d'ATP, comme on l'a vu, il y a également le potentiel redox qui est extrêmement important. On voit que ce couplage permet de mieux saisir la base des signaux détectés par imagerie cérébrale fonctionnelle. On voit aussi que on a vu aussi que ceci peut être impliqué, en tout cas postulé comme étant impliqué dans certaines pathologies neuropsychiatriques. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est à l'aube, quelque sorte, pour être un petit peu formel dans cette fin de cours, d'une ère nouvelle qui cible l'astrocyte et les cellules gliales en général comme étant fortement impliquées dans des pathologies du système nerveux. Et je pense que ça ouvre la voie pour développer des approches thérapeutiques qui ciblent la glie. Alors, il y a encore une prolongation de mon cours qui se tiendra le mardi prochain sous forme d'un colloque où j'aborderai un sujet qui, pour moi, est lié à tout ce dont je vous ai parlé, mais qui est quand même, qui a aussi ses particularités, qui émane aussi d'une collaboration avec mon collègue François Sermé, qui est chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Genève et qui est psychanalyste et qui est ce pont que l'on essaye d'établir de la manière la plus objective possible et qui tourne notamment autour de la plasticité entre neurosciences et psychanalyse ou peut-être de manière plus générale l'intérêt que neuroscientifiques et psychanalystes ont pour les processus inconscients. Et ce colloque aura lieu donc mardi prochain, ici au collège. Et en fait, il aura lieu à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Et il y a toute une série de neurobiologistes bien reconnus, comme notamment Mark Raichel, dont je vous ai beaucoup parlé au cours de ces cours, Antonio Damasio, Christine Alberini et Jeanne Roux, Le Moal, Ben Abid. Et puis, un certain nombre de psychanalystes, Vidlocher, Nakache étant neurologue intéressé au processus inconscient, Éric Laurent, psychanalyste, Jacques-Alain Miller. Voilà, donc vous êtes bien sûr les bienvenus. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.